Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes. Nous allons faire deux lectures pour commencer. Psaume au chapitre 139, au verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 6. Psaume 139, verset 1 à 6. Je voudrais quand même commencer en vous donnant un petit peu le titre de ce partage, de ce message ce soir. J'aimerais parler de l'astrologie et de ses conséquences. L'astrologie et de ses conséquences. Je suis obligé de mettre une définition sur ce mot. L'astrologie, c'est un ensemble de traditions et de croyances qui soutient que la position des planètes dans le système solaire apporte des informations permettant d'analyser ou de prédire des événements humains, collectifs ou individuels. Les croyances associées à l'astrologie restent populaires. Et ça, c'était un petit peu la définition. On va lire ce qu'en dit la Bible pour l'instant, et surtout ce que dit la Bible dit sur Dieu. L'astrologie prétend pouvoir prédire l'avenir, etc., mais qu'est-ce que Dieu nous dit sur lui déjà ? Psaume, chapitre 139, verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Amen. La première chose que je voudrais dire, et la base que je voudrais apporter pour que nous puissions développer tout le reste, c'est que Dieu sait toutes choses. Il est omniscient. On vient de lire quelques phrases, quelques versets de la parole de Dieu qui nous renseignent sur la personne de Dieu. Dieu sait toutes choses. Il sait quand on se lève, il sait quand on se couche, il sait quand on veut faire quelque chose, il sait quand on fait quelque chose. Avant même qu'on veut parler, il connaît la parole qui va sortir, avant qu'elle sorte de ma bouche. Il sait tout, surtout. Il est dit que sa science est au-dessus de notre portée. Elle est trop élevée pour qu'on puisse la saisir. Dieu voit tout. On aurait pu lire après. Où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de ta face? Il est de partout. Il sait toutes choses. Et il a même dit au verset 16, on l'a lu, « Quand j'étais qu'une masse informe, déjà tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie avant qu'ils eussent existé. » S'il y a plus que ça en science et en savoir, je veux bien. Je veux bien qu'on me renseigne. Dieu sait tout. Et on sait que même ce texte, avant que l'échographie n'existe, échographie 3D, c'est ce qu'on a aujourd'hui, Dieu a inspiré l'auteur, David, pour dire que quand on était une masse informe dans le ventre de la maman, et quand on voit les échographies, ça fait peur quelquefois, l'embryon, etc., quand on voit comment c'est, puis finalement, ça arrive à faire un être humain. C'est David aussi qui va dire « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » On est fait tellement bien que son nom soit béni, et pourtant ça part bizarrement dans le ventre de la maman. Mais Dieu, il voyait déjà, il était déjà en train de tisser toute chose dans le ventre de la maman. C'est encore la Bible qui le dit. Dieu sait tout. Une deuxième lecture donc dans Ésaïe, chapitre 46 et verset 10. Ésaïe, un peu plus loin. Chapitre 46, verset 10. Non seulement Dieu sait tout, mais Dieu contrôle tout. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est Dieu qui parle. Dieu sait tout et contrôle toute chose. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, cela ne changera rien. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. La science de Dieu est impénétrable. Elle est inégalable. On ne peut imaginer toute sa connaissance qu'il a. Et on ne peut au mieux que la définir par un mot, infini. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le mieux qu'on puisse faire. Sa science, son savoir est infini. Je ne vois pas d'autre mot pour qualifier sa connaissance. Ça veut dire que notre existence sur Terre, mais aussi notre présence ici ce soir, n'est pas un hasard, ni le fruit des conséquences à peu près contrôlées. Mais Dieu a permis que nous soyons sur cette terre et que nous existions. Dieu a permis que nous venions ici ce soir. Si Dieu sait tout et Dieu contrôle tout, ma présence, mon existence sur cette terre, est bien le fruit de sa volonté aussi. Et ça doit me rassurer. Dieu n'est pas surpris par une naissance. Oh mince, un habitant de plus. Ils sont déjà 7 milliards, où je vais le mettre? Dieu a tout fait comme il fallait. Il n'est pas surpris par notre présence ce soir. Mince, j'avais pas prévu en réserve les bénédictions pour Dena qui est là ce soir. Mince, hein, j'ai pas assez pour elle, j'ai pas pris tout ça. Non, Dieu n'est pas surpris. Il savait à l'avance qui serait là ce soir et qui serait absent. D'ailleurs, Dieu ne parle jamais aux absents. Souvent on dit, oh c'était pour un tel, dommage qu'il soit pas là. Je crois que c'est d'abord pour nous. Hein? C'est d'abord pour nous, et ce qu'on a reçu, peut-être on peut lui apporter, si on pense que ça peut lui faire du bien. On n'est pas là à prendre la parole pour taper sur les gens. Hein? On est là pour bénir. Dieu n'est pas surpris, et si Dieu a permis qu'on vive, si Dieu a permis qu'on vienne, c'est qu'il veut nous bénir. Dieu, dans toute la Bible, il n'est jamais dit que Dieu veut maudire l'homme, bien au contraire. Il est celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, comme on l'a si bien chanter. Toute la Bible nous raconte la valeur qu'a aux yeux de Dieu l'être humain. L'être humain a une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Jésus va comparer les êtres humains à des brebis, il va dire pour une brebis, il va laisser un troupeau qui va bien pour aller chercher celle qui est perdue. Pour une âme, pour une personne, Dieu s'inquiète et Dieu se met en marche pour la chercher. Mais Dieu, puisqu'il nous aime et veut nous bénir, alors il a aussi écrit sur l'astrologie, tous les arts divinatoires, etc. Et Dieu nous prévient dans Deutéronome, par exemple, Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Vous allez dire, mais on a déjà entendu, pour certains, ça fait plusieurs fois que vous entendez cela. Ce midi, j'étais convaincu que j'allais surprendre personne. Il y avait peu de personnes à la prière. On avait une sortie pour les aînés aujourd'hui et la plupart de ceux qui venaient n'étaient pas là. Mais dans le petit groupe qui était là, j'ai dit on va prier parce que ce soir, je vais dénoncer quelque chose qui touche vraiment au travail de Satan, au travail du diable. Je vais dénoncer quelque chose et je voudrais qu'on prie pour que Dieu puisse vraiment ouvrir les cœurs et que Dieu m'aide aussi à apporter ce message. Je vais parler de l'astrologie, je vais parler de la voyance. Et en 3 secondes, j'ai découvert que quelqu'un dans la salle ne savait pas que les signes astrologiques, etc., c'était mauvais. Alors, je pense que c'est utile, encore, ce soir, de rappeler ces choses, et régulièrement, peut-être. Donc, Deutéronome, chapitre 18 et verset 10. Qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ouf. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Amen. Je me suis renseigné, voulant parler sérieusement de ce sujet, un petit peu des choses qui se font aujourd'hui. Et pas à l'étranger, pas loin de chez nous, mais tout près, en France, et même au sud de la France. J'ai regardé un petit peu, en tapant astrologie, tout ça, j'ai regardé un petit peu tous les rendez-vous. Vous savez qu'il y a des festivals de la voyance tous les mois, qu'il y a des salons de la voyance et des arts divinatoires tous les mois. Vous savez que toutes ces choses se répandent. J'ai regardé un peu les dates, il y en a pour tous les mois. Celui qui cherche à avoir un astrologue, un voyant, il n'a juste en quelques secondes qu'à aller sur Internet, faire quelque chose, etc. Je veux mettre les choses à plat de suite. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Je suis là simplement pour prévenir des pièges. Parce que Dieu veut qu'on avertisse à chacun, après, d'être libre. Et je ne veux pas condamner quelqu'un qui serait allé voir une voyante ou qui serait allé voir un médium, etc. Ce n'est pas contre vous. C'est contre ce qui se passe et ce à quoi vous avez touché que je veux parler ce soir. Parce que 75 personnes des demandes de voyance sont pour des problèmes sentimentaux. Les gens qui vont voir les voyants, qui vont voir les personnes comme ça, les médiums, les astrologues, etc., c'est pas des gens en bonne santé qui veulent des sensations fortes. La plupart des personnes qui vont voir, c'est pour des problèmes sentimentaux. C'est des gens tristes, c'est des gens malheureux, c'est des gens blessés dans leur cœur. Et ça, c'est les problèmes sentimentaux. Et les 25% suivants, c'est des problèmes de la vie. Toujours des problèmes. Et les gens cherchent une solution à leurs problèmes. Et ça paraît légitime. C'est pour ça que je ne veux pas non plus condamner les personnes qui seraient allées voir, vous dire vous n'avez pas votre place. Bien au contraire, je veux vous dire qu'il y a encore mieux qu'un voyant. Il y a beaucoup plus sécurisant. 75% à cause de problèmes sentimentaux. Et les 25 autres, c'est toujours des problèmes. Problèmes dans le travail, problèmes, etc. Problèmes quelconques. Les consultations chez les voyants, chez les astrologues, chez les numérologues font qu'augmenter. Et c'est une explosion aujourd'hui en France. Vous savez, souvent on disait les sorciers, les marabouts, etc. C'était dans les pays orientaux. En France, il y a une croissance exponentielle. Passer de Nice à Sofia Antipolis, vers Antibes, tout ça, la société Cosmospace emploie sur son site 130 médiums, astrologues ou numérologues qui consultent par téléphone. Avec 130 000 clients fidèles. Ce n'est pas les gens qui vont appeler une fois, tout ça on ne les compte pas. 130 000 clients fidèles tous les mois. Tous les mois ou tous les ans, je ne sais plus. Elle revendique une place de leader en Europe, c'est en France. Et une croissance à deux chiffres, c'est-à-dire que chaque année, il y a au moins une croissance de plus de 10%. 10%. Vous regardez les meilleures sociétés en France, elles ne font pas cette croissance-là. Elles n'y arrivent pas. Et pourtant, tout ce qui est médium, astrologue, numérologue, ont cette croissance-là des appels, des clients fidèles, ce qu'ils appellent. En cabinet, sur Internet, par téléphone ou SMS, des centaines de voyants ou prétendus tels travaillent dans les Alpes-Maritimes, juste au sud. Non sans dérive. Ça, c'était un article pas du tout chrétien. Je ne prends pas du tout quelque chose pour avec parti pris, etc. Mais pour vous expliquer qu'il y a une croissance. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons la Bible, on doit vraiment veiller là-dessus et puis aussi prier. Je crois qu'il y a quelque chose d'important derrière. Quelques conseils qui sont proposés pour ceux qui cherchent un voyant. Je vous donne un peu ce qui est proposé. Qui n'a jamais été tenté de consulter un voyant? Alors conseil, si vous avez choisi d'en consulter un, n'attendez pas de lui du sensationnel, mais ayez un état d'esprit confiant. Donnez votre confiance déjà. Partez avec la confiance dans le médium ou le voyant. Il commencera sa consultation par votre passé ou votre présent. Faites-lui comprendre s'il est sur la bonne voie en lui dévoilant vos impressions du moment. C'est ainsi qu'il pourra au mieux exprimer et déployer le maximum de ses capacités. Quand on analyse bien ces conseils-là, c'est tout l'inverse de ce que dit la Bible. La Bible dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui place toute sa confiance dans l'homme. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. » Et là, il dit, mettez la confiance, lui. Dites-lui un peu ce que vous cherchez. Montrez-lui s'il est sur la bonne voie. En vrai, dites-lui ce que vous attendez, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire, quoi. En clair, c'est ça. Et tout pour dire que derrière, il y a une influence, il y a une manipulation. Dès le départ, même dans l'annonce, c'est clair. Dites-lui ce que vous attendez. Hein ? Il y a une séduction derrière la voyance. C'est séducteur. Et quand on regarde un peu les forums, un petit peu tout ce qui se dit, les gens, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent, les résultats de leur première consultation, ils sont comme bouleversés, ils sont étonnés, ils sont comme renversés. Ils ne savent plus quoi faire, plus quoi dire. Il y a comme un étonnement, ils sont séduits. Et quelqu'un, une ancienne voyante, va dire, on prend le mal pour le bien et inversement, le bien pour le mal. La voyance inverse notre conscience du bien en la mettant dans le mal et le mal dans le bien. C'est une ancienne voyante qui dit ça. Une autre parle, une annonce, hein, pour vous montrer qu'on inverse le bien et le mal, une annonce dit ceci. Une voyante, à Montpellier, sérieuse, déjà c'est mon conscience, sérieuse, vous délivre, le mot délivrance, ses visions éclairées, le mot lumière. Une voyante à Montpellier, sérieuse, vous délivre ses visions éclairées. Tout le message de la Bible. La délivrance, la lumière, etc. La Bible dit que le diable, il s'appelle Lucifer, ange de lumière. C'est-à-dire que depuis qu'il est déchu, il cherche à imiter la lumière de Dieu. Ses visions éclairées, etc. Voyante spirituelle opère toutes sortes de délivrances. Les guérisons se font par des méthodes saines et très efficaces. Vous ne serez pas déçus par son savoir-faire, etc., etc. En parlant du maraboutisme. Il y a un esprit de séduction. On veut vous mettre en confiance. On veut vous faire croire certaines choses. C'est la lumière, on va faire la lumière sur votre état, etc. Une voyante non convertie, ex-voyante, donne 7 résultats. 7 résultats. Je précise non convertie pour dire qu'il n'y a pas de parti pris. Et vous allez voir ce qu'elle dit. C'est parlant. Cher lecteur, si vous allez consulter une voyante, il y a toujours quelques risques. Moi, j'enlève le quelque. Vous pouvez tomber, vous pouvez tomber sur des personnes malhonnêtes qui voudront abuser de votre argent. Et c'est vrai qu'il y en a. Manipulateurs qui sont là pour vous piquer votre argent. Mais ce n'est pas là le plus grave. Deuxièmement, certaines voyantes peuvent exercer une pression psychologique sur votre âme. Elle l'a fait. Et quand elle expliquait tout le reste, elle racontait qu'elle l'a fait et qu'aujourd'hui elle regrettait. Troisièmement, vous allez au-devant de gros dangers pour votre équilibre psychique. Et elle racontait tous les détails, les cas qu'elle a vus, après que les gens soient venus la consulter. Quatrièmement, vous allez perdre toute votre liberté de décision et serez dépendant psychologiquement de la voyance que vous avez rencontrée et qui aura un pouvoir sur votre âme. Cinquièmement, vous courez le risque d'être possédé par des esprits mauvais. Elle n'a pas donné son cœur à Jésus. Sixièmement, vous créez un lien avec Satan qui ne peut être rompu sans l'aide de Dieu. Elle n'est pas convertie. Et septièmement, elle termine bien, vous attirez la colère de Dieu sur vous. Elle a tout compris, sauf que elle n'a pas à donner son cœur à Jésus. Comment qu'on peut tout comprendre, mais on a encore le choix. C'est là encore une preuve de l'amour de Dieu, mais c'est là encore une preuve de la folie humaine. On sait, mais on passe à côté. Mais elle reconnaît qu'on court le risque d'être possédé par des esprits mauvais. Elle reconnaît qu'on crée un lien avec Satan qui ne peut être rompu sans l'aide de Dieu. Ça veut dire qu'elle encore, elle le vit, puisqu'elle n'a pas encore saisi l'aide de Dieu. Et septièmement, vous attirez la colère de Dieu sur vous. Ça, c'est ce qu'elle explique. Et une autre ex-voyante, mais cette fois-ci chrétienne, va dire ceci. Elle est interrogée, c'est comme une interview. « Pourquoi dites-vous que cette puissance vient de Satan ?» Elle répond. « D'abord, l'angoisse de ceux qui venaient me consulter en est une preuve. L'angoisse ne vient pas de Dieu, puisqu'au contraire, il apporte la paix. L'homme qui vit en communion avec Dieu n'est pas angoissé face au futur, car il se confie entièrement à son Sauveur et son Maître, Jésus-Christ. Ensuite, cette soif toujours grandissante de connaître le lendemain. Une grande partie de ma clientèle ne se contentait pas d'une visite chez moi, mais à force, c'était la visite chez une tireuse de cartes, chez un voyant et même chez un autre astrologue pour pouvoir comparer les prédictions. Le problème de l'insatisfaction était toujours là. Et l'insatisfaction aussi ne vient pas de Dieu. Par-dessus tout, la dépendance psychologique de ceux qui me consultaient démontre à quel point l'astrologie est néfaste. Que voulez-vous dire exactement par dépendance psychologique ? Je veux dire que, pour ceux qui me consultaient, à quoi servait-il de faire des efforts puisque tout était prévu d'avance ? Bientôt, le laisser-aller prenait le dessus et je voyais ces personnes torturées, devenir torturées et déchirées parce que finalement, aucun problème ne pouvait être résolu. À l'avance, ces personnes souffraient et s'apitoyaient sur leur sort au sujet des épreuves qu'elles n'avaient pas encore subies. Elles étaient déjà dans l'angoisse de ce qu'elles allaient subir, imaginez-vous. Moi-même, à cette époque, je devais chaque jour, devant chaque événement, repasser en mémoire ma carte du ciel afin d'évaluer mes décisions. Elle se repassait la carte pour décider quel choix faire, etc. Elle dit, j'étais esclave de mes prédictions et de mes interprétations. Aujourd'hui, elle conclut, je n'ai plus besoin de sonder le futur car je comprends toute la puissance de la foi au niveau pratique. Les deux versets de la Bible que je veux citer, résonnent dans mon cœur comme une réponse à donner à tous ceux qui se bousculent dans les bureaux d'astrologues et de diseuses de bonne aventure. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et le deuxième, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine, et c'est Jésus qui parle du moment qu'on se confie en lui, Matthieu 6, 26 et verset 34. Cette personne nous décrit de quoi elle est partie et ce qu'elle a découvert en Dieu. Elle a compris que les angoisses, elle a compris que les dépendances, cette soif de connaître l'avenir pour être sûr qu'il n'arrive rien, cette angoisse qui vient parce qu'on a peur déjà de ce qui risque de nous arriver peut-être, etc. L'enfer de l'astrologie, de la voyance, tout ça, elle le décrit et elle dit voilà les paroles qui ont fait du bien à mon cœur, c'est les paroles de Jésus. De Jésus. C'est important de savoir ça. Et je sais que c'est pas une habitude à prendre de prendre toujours des témoignages, etc. Mais je crois que c'était quand même important que l'on voit un petit peu que même les voyants, même les astrologues, même les numérologues qui ne sont pas encore sortis de ça, qui ne connaissent pas Dieu, reconnaissent qu'il y a un lien avec Satan, avec toutes ces choses. Il y a deux sortes de problèmes qui se présentent. Il y a ceux qui manipulent, ceux qui font semblant. Je vais vous donner un... Vous voyez ? Tout le monde lève les yeux au ciel parce que j'ai fait ça. Vous voyez ? On se demande qu'est-ce qu'il y avait là-haut. Je peux suggérer plein de choses par mon attitude. Et par ce que je fais, vous pouvez comprendre certaines choses. Il y a un message qui parle, pas besoin de paroles. Eh bien, ils font pareil. Il y a une manipulation qui est comme ça. Mais derrière aussi, au-delà de cette manipulation, il y a un lien diabolique. Il y a un occultisme qui est là. Il y a une puissance démoniaque qui perd les gens, qui lie les gens et qui les empêche de trouver la vraie liberté à laquelle on est appelé en Jésus-Christ. Et ça, c'est important qu'on le sache. Et je voudrais que tous les chrétiens puissent savoir, une bonne fois pour toutes, qu'il ne faut pas aller vers ces choses. Je crois qu'il suffit de lire la Bible, mais quelquefois, peut-être, eh bien, d'en reparler. C'est parlant de soi. Et je crois que la Bible donne encore un autre enseignement qu'on va lire. Dans Daniel chapitre 2. On ne va pas lire tout le chapitre, mais je vous invite à le faire à la maison. Retenez-le. Daniel chapitre 2, pour un petit peu étayer ce que nous avons lu. Juste après Ézéchiel. Daniel chapitre 2, on va commencer au verset 2. Ou plutôt verset 1, oui. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Au roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Un petit peu plus loin, verset 8, le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe, donc il ne leur a pas donné l'explication, la même sentence vous enveloppera tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en entendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner les explications. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et aussi puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Entre parenthèses, les dieux, c'est ce que eux croyaient, hein, qu'il y en avait plusieurs. Ils en adoraient plusieurs. Verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisque entre-temps, je vous fais un petit peu de contexte. Bon, c'est important. On est dans un contexte où Daniel, qui était hébreu, pardon, a été emmené en captivité dans un pays, à Babylone. Il a été emmené et à un moment, il y a ce roi qui fait un rêve. Et Daniel, il est parmi les sages de Babylone, puisque Dieu lui a donné une intelligence 10 fois supérieure aux autres. Je passe les détails. Et Daniel se retrouve dans une position. Et le roi va demander à tous les astrologues, les devins, les chaldéens, pas à Daniel, puisqu'il n'était pas astrologue, hein, il va demander, voilà, expliquez-moi, j'ai fait un rêve, donnez-moi l'explication. Il dit, ben oui, explique-nous le rêve. Non, je veux vérifier si ce que vous me dites c'est vrai, parce que je sais que vous voulez me mentir, me donner des explications mensongères. Alors dites-moi, si vous êtes vraiment des magiciens, des astrologues, etc., dites-moi le rêve et donnez-moi l'explication. Mais personne ne peut, aucun homme ne peut, etc. Il n'y a qu'un homme qui puisse faire ça. Ah, puisque c'est comme ça, vous allez tous mourir. Ce roi ne connaissait pas Dieu, hein, au passage. C'est important. Il ne ferait pas appel aux astrologues, déjà. Et voilà que Daniel entend la sentence, et lui, il faisait partie des sages. Et il allait mourir aussi. Et il priait, supplie Dieu, et dit, Seigneur, donne-moi l'explication de ce rêve, pour qu'on ne meure pas. Lui-même n'avait aucun pouvoir pour expliquer le rêve, et dit, Seigneur, explique-moi. Et Daniel se présente devant le roi. Et donc, verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui peut révéler les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Un verset plus loin, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donné au roi. Verset 46, après qu'il est donné, Daniel donne toute l'explication, il révèle le rêve parce qu'il l'avait reçu de Dieu, il donne l'explication du rêve parce qu'il l'avait reçu de Dieu, et voilà la conséquence. Daniel, chapitre 2, verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna. Juste après, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Pourquoi j'ai lu cette affaire? Parce que ça nous montre exactement la réalité. Que ce soit une manipulation, que ce soit une puissance diabolique, il y a une puissance de mensonge. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Vous n'avez pas écouté les astrologues, les devins, les voyants, etc. Ils vous ont peut-être dit quelque chose si vous êtes allé les voir, une malédiction ou une promesse, bonne ou mauvaise, c'est un mensonge. Ne vous laissez pas conduire par ces choses. Les gens qui suivent ces gens, ils sont tristes, malheureux, angoissés et détruits intérieurement. Et même parfois, extérieurement. Ils se retrouvent avec des maladies, des choses comme ça. On en a vu plusieurs dans l'église, dans les églises. Gardez-vous de ces choses. Et ce texte nous montre qu'il y a une puissance d'aveuglement, il y a une puissance de mensonge, il y a quelque chose derrière et le roi n'a pas voulu se faire avoir. Et Dieu a permis que Daniel soit là pour donner l'explication. Il y a toute une bénédiction qu'il y a derrière pour le peuple juif et hébreu, mais Dieu avait permis qu'il y ait Daniel qui soit là. Et dans ses paroles, il va même dire, lui, je n'ai aucun pouvoir de Dieu, moi. Je n'ai pas le pouvoir d'expliquer les rêves, je n'ai même pas le pouvoir de connaître les rêves, je n'ai rien. Ce que je connais, ce que j'ai, c'est la connaissance du Dieu vivant et vrai, le seul Dieu. Il n'est pas le Dieu des dieux, il est le Dieu tout court. Dans Ésaïe, il dit, je suis le seul Dieu, hors moi, il n'y a point de Dieu. Et il explique que notre Dieu est capable de répondre aux besoins du cœur. Ce roi n'arrivait plus à dormir, il était tourmenté, angoissé, etc. Et Dieu lui a apporté la paix. Dieu lui a donné des conseils aussi pour bien faire, pour faire les bons choix et pour faire ce qu'il faut pour son peuple et pour connaître des choses qu'il devait savoir. Dieu est celui qui apaise les cœurs. Ne choisissez pas l'angoisse, ne choisissez pas le mensonge, la tromperie, choisissez Dieu, tout simplement. Dieu est le meilleur pour nous guider et en plus c'est gratuit. C'est gratuit. Dieu ne vous demandera jamais un billet en échange d'une promesse, d'une bénédiction ou d'une grâce. Dieu, il donne gratuitement, parce qu'il fait grâce, il est miséricordieux et il a de la compassion pour les êtres humains. Je conclus. Que faire si j'ai touché à la voyance? Ben, c'est important. Vous laisser comme ça, faut pas y toucher, mais ne pas répondre à quelqu'un peut-être qui aurait touché, qui aurait aimé, qui aurait pratiqué. C'est important de le faire. Que faire si j'ai touché à la voyance, l'astrologie, si j'ai eu contact à la magie? Premièrement, croire que Dieu connaît les pensées de mon cœur et qu'il sait que je veux lui plaire. Parce que si vous posez cette question, alors quoi faire? C'est que vous avez déjà dans votre cœur cette volonté de lui plaire, de lui être agréable, qu'il vous soit propice, qu'il puisse vous bénir. Croire qu'il connaît vos cœurs, qu'il entend dans vos cœurs cette pensée, cette volonté de lui plaire. Deuxièmement, demander pardon. Parce qu'il est dit que ceux qui pratiquent ces choses sont en abomination, c'est important de demander pardon. Demander pardon pour l'offense que je lui ai faite en allant vers ces personnes, vers ces croyances ou en les pratiquant. Et troisièmement, le prier et de lui demander son secours pour être délivré de la dépendance, mais aussi de l'influence de ces pratiques. Et je suis convaincu qu'à l'instant, il exaucera votre prière, parce que je ne crois pas que quand quelqu'un vient à Dieu pour lui demander de passer des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de la malédiction à la bénédiction, Dieu dise « Oh, on va attendre un petit peu ». À l'instant même, Dieu bénit. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. On a introduit avec des chants et on conclut avec la même chose. À cause de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que Jésus est mort pour tous les êtres humains, parce que tous sont pécheurs. Que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit une parole grossière que j'aurais dite, que ce soit l'astrologie, que ce soit la magie, l'astrologue, le magicien, le voyant, ils sont tous pardonnés en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix pour chacun. Dans 1 Jean, il est dit que Jésus est mort pour tous les péchés. Il est un sacrifice propice pour tous les péchés et tous les pécheurs du monde. Et c'est important de savoir que même si on a été voyant, même si on a été astrologue, magicien, ce qu'on veut, on peut être pardonné en Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché trop grave qui ne puisse être pardonné du moment qu'on vient avec un cœur sincère, avec le désir d'abandonner ce péché, bien sûr. J'ai connu quelqu'un qui a demandé « Mais je pratique les arts magiques. Je fais de la voyance, je lis dans les lignes de la main, je tire les cartes, etc. Il est allé voir une autorité spirituelle dans une certaine religion. Je n'ai pas besoin de parler de religion. Il est allé voir, il a demandé conseil. Est-ce que c'est mal ? Non, du moment que vous ne volez pas d'argent. Cette personne, cette autorité spirituelle, aurait mieux fait de lui donner ce texte. Ceux qui pratiquent ces choses sont en abomination. Mais celui qui se repent, il est pardonné. Et il est gracié de Dieu. Et il est béni de Dieu. Et il est délivré à cause de Jésus-Christ. Et pour vous montrer que Jésus, ce n'est pas un hasard qu'il soit mort sur la croix, encore pour vous montrer que Dieu sait tout d'avance et que Jésus savait d'avance aussi toutes choses et qu'il peut répondre aux besoins de chacun ce soir, je lis et je termine avec ce verset Jean 18, 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et il leur dit « Qui cherchez-vous » Jésus-Christ, c'est moi. Emmenez-moi. Je veux mourir à la croix pour eux. Je ne sais pas, mais c'est ça qui s'est passé. Jésus, sachant qu'il serait tué sur le bois de la croix, mis à mort, il dit « C'est moi que vous cherchez. Je suis là. Cherchez pas plus loin. Je suis là. » Et pourtant, Jésus savait, il aurait pu prendre, comme on dit, la poudre d'escampette, il aurait pu partir, il aurait pu fuir, s'enfuir. Mais non. Jésus va dire « Moi, je veux donner ma vie pour racheter la vie de ceux qui croiraient en moi. Moi, je veux racheter la vie, je veux payer pour ceux qui me demanderaient pardon pour leurs péchés, parce qu'ils croiront que je les aime, que moi et mon Père nous les aimons et que nous les voulons avec nous, que nous voulons les gracier, que nous voulons les délivrer, les bénir en moi à cause de son sang qui a coulé. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Père. Merci Jésus encore de nous avoir laissé la parole, cette parole de vérité, cette parole sûre. Et je veux, Seigneur, investir tout mon cœur, toute ma confiance, tout le potentiel de confiance que j'ai dans ta parole, pas dans autre chose, Seigneur. Je crois que le monde me proposera toujours des choses et des choses et des choses pour m'éloigner de toi, pour me distraire, parce que le monde est influencé par une puissance mauvaise. Mais toi qui nous aimes, tu as triomphé de toutes les autorités maléfiques et tu es allé livrer en spectacle sur la croix. Seigneur, tu t'es donné pour vaincre le mal. L'amour a triomphé du mal, Seigneur, et tu t'es donné pour expier tous nos péchés. Ce soir, peut-être quelqu'un ne savait pas toutes ces choses, aujourd'hui tu le convaincs par ton esprit que c'est la vérité, qu'il ne faut jamais qu'il touche à ces choses. S'il te plaît, Seigneur, inscris et grave ces choses dans le cœur, que jamais elles ne soient oubliées, je t'en supplie. Et encore ce soir, si quelqu'un avait touché à ces choses, était allé voir un voyant, une voyante, et avait reçu une prédiction qui l'angoissait, tu le délivres de ses angoisses, tu les délivres de ses doutes, de ses peurs et de ses craintes. Si quelqu'un avait pratiqué, avait tiré les cartes, fait ces choses, tu le délivres de ses puissances démoniaques, Seigneur, et tu lui montres combien tu l'aimes et que tu peux le pardonner à lui aussi. Tu peux le délivrer de toutes ces choses. Merci parce que tous les péchés ont été expiés à la croix et celui qui croit obtient la grâce de Dieu sur sa vie. De maudit, Seigneur, tu as été toi maudit pour qu'on soit béni, béni du Père. Que ton nom soit glorifié parce qu'à cause de ce sacrifice, le ciel nous est propice et nous avons le pardon de nos péchés et une vie nouvelle en toi. Que ton nom soit béni et encore tu délivre et tu manifestes ta puissance au travers de la vie de chacun. Que ton nom soit glorifié, Pierre. Amen. Amen.